Vous écoutez Radio FMR, nous sommes le samedi 11 décembre 2010. Nos programmes pour cet après-midi, à 13h du sport, les résultats sportifs en direct des vestiaires et de l'infirmerie, à 15h du reggae avec Zarma Farai et à 17h FMR cède l'antenne à Booster FM sur les 89.1 MHz. Mais dans les médias, voici le guide d'achat des cadeaux que vous attendez tous.
Précédemment dans le supplément week-end...
Il y avait le flic, il y avait un flingue, mais on lui démontre que le flingue ça sert à rien, que c'est bien la philosophie des arts martiaux et tout. Ah ouais, vous avez raison, vous êtes mes potes et tout.
Radio FMR présente. Le supplément week-end. Le magazine des cultures geeks. Avec du sport, Ultimatum, Dastage et la participation exceptionnelle de JB.
Bonjour et bienvenue, désolé pour cette très longue interruption de 3 semaines qui était absolument involontaire de notre part. Primo parce que on aurait aimé faire une émission avant le Toulouse Game Show, on aurait aimé faire une émission en direct au Toulouse Game Show. D'ailleurs, très sincèrement, on avait le blanc-seing et tout, la place réservée et tout le reste, on pouvait le faire. Et on aurait aimé faire une émission un petit peu plus tôt. Comment dire ? Bah voilà, on est bénévole et il y a des fois où on est obligé malheureusement de faire un choix. Et en plus Sushinet nous a pas aidé puisque elle a décrété que c'était pas enfin normalement on devait même pas faire émission cette semaine. Heureusement elle sera là à 13h pour s'expliquer. Non, je déconne complètement. Elle sera là tout simplement pour prendre la suite de Du Sport puisque Du Sport n'est pas là cette semaine mais nous écoute quand même malgré tout.
Non, ça c'est bien parce que ça c'est Du Sport, l'émission de Du Sport présentée pas par Du Sport. Non, ça c'est bien. Ça se fait des crossovers, ça fait des remplacements, c'est
moi, ouais, ça fait, tu sais, ce que j'appelle là, ce petit moment de digressif où à la fois on continue une formule et on essaie de la relancer.
Oui, voilà, reste, c'est voilà. Un peu comme.
Je crois qu'on n'a pas fait au SVE depuis un bail.
C'est ce qui s'est passé sur CSI avec le remplacement de Grissom par Laurence Fishburne.
Voilà, mais tu ne connais pas tout, etc. Donc tu repars à la base et tu vas crotter tes beaux souliers, tout le reste.
Voilà, c'est ça.
Ouais, exactement
mais
ça.
Non, mais dans ce moment week-end, nous on fait en consanguinité un peu. Il y a pas de remplacement.
Mais néanmoins. On vous promet une surprise sur le Toulouse Game Show parce que la surprise dont on n'a pas parlé à l'antenne mais que certains de nos amis étaient au courant, c'est qu'on avait de la vidéo. L'émission que nous aurions dû faire en direct aurait dû être enregistrée en vidéo et en plus on aurait dû faire des petits reportages à côté en vidéo, en supplément pour une web télé qui événementielle qui en fait justement était une trace pour le TGS. C'est en cours de montage, d'après ce que je sais. À noter qu'on n'était pas avec une seule équipe vidéo, mais avec deux.
Oui, bah ça c'est voilà. Le grand moyen, ça c'est la classe.
C'est la classe américaine. Néanmoins, ça vaut pas mieux que Marcus d'une certaine chaîne dont je ne citerai pas le nom.
Encore.
La chaîne avait fait la chronique mercredi du jeu Michael Jackson, le jeu de danse sorti sur Wii, où ils l'ont massacré. Et 20 minutes après, Marcus fait tester le jeu devant 1000 joueurs au Toulouse Game Show, c'est-à-dire que ben il y a 1000 personnes qui ont dansé et tout, plus les gens qui étaient grimés en zombies qui sont venus pour Thriller. C'était grandiose, c'était vraiment un grand moment. Là, enfin, la personne avec qui j'étais assis sur le canapé a dit « Mais pourquoi je l'ai pas vu, ça ?» Enfin, c'était absolument immense et gigantesque. Il y avait plein de choses à voir, outre un stand Microsoft qui était vraiment présent, hein, il faut le dire.
Et Corporate.
Et Corporate. Wakfu aussi qui était présent. Un nouveau jeu MMORPG qui était lancé en même temps. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Ben, il y avait les invités habituels, il y avait les stars qui étaient venues. Et alors Madame du Sport, elle attendait sur le charbon ardent de rencontrer sa fan.
Oui, son acteur de Battlestar Galactica. Moi j'ai pu approcher
le vintage, attention.
Le vintage, l'ancienne série. J'ai pu approcher d'assez près l'acteur qui joue Apophis Donc c'est vrai qu'il ressemble à rien en fait en vrai, mais c'est vrai que
le maquillage il fait pour quelque chose, mais d'un autre côté, bon, c'est des personnes qui sont tout à fait agréables.
Voilà. Après je dis il ressemble à rien, c'est pas très sympa. C'est juste ouais, c'est juste qu'il a l'air tout à fait sympathique à milieu de son personnage d'Apophis. Donc là c'est vrai qu'avec des cheveux, t'as un peu de mal à le reconnaître. Mais bon, sinon c'est il avait l'air tout à fait aimable et sympathique.
Il est très accessible. Je pense que personne justement ne se plaindra de ces stars américaines, loin de là. Il y avait Benjamin qui était présent, qui nous a fait un large sourire. Je me suis fait un petit gag d'ailleurs au milieu des fans, c'était vraiment sympa. Il y avait des écoles de jeux vidéo qui étaient là pour, enfin des écoles d'informatique pour présenter justement l'univers du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que le développement, il n'y a pas que le graphisme, il y a aussi le level design, l'animation de communauté et tout le reste. Il y avait deux stands avec le Kinect qui étaient présentés, juste quoi, même pas 2 semaines après son lancement, où vous êtes censé être la console.
Oui,
voilà. Très amusant, mais le plus drôle avec le Kinect, ça reste quand même que Microsoft s'est fait détourner l'engin et qu'il y en a qui sont amusés à le brancher sur les ordinateurs, à trouver comment fonctionne le système pour faire des trucs complètement délirants. Donc je pense que c'est la manette de jeu qui n'est plus une manette de jeu, c'est clair. Ça c'est un petit peu à part. Il y avait bien évidemment, il y avait l'équipe de Tokyo Café qui était présent, qui avait amené, ils avaient dit qu'ils avaient déplacé 30 kilos de bouquins. Ce qui ne m'étonne absolument pas, on connaît la masse volumique du papier chaque fois qu'on déménage nous. Oui. Et accessoirement, encore beaucoup de choses.
Il y avait les invités de la chaîne No Life dont tu disais, il y avait la Flanders Company, il y avait la moitié du casting de Nerds, il y avait les noobs, il y avait les stands habituels, Okini, le salon de thé, voilà.
Ouais, il y avait des gens qui faisaient des démonstrations absolument hallucinantes d'origami. Il y avait cérémonie de thé, il y avait une présentation du jeu de Go, et pour la première fois il y avait un espace corporate au sens de c'est pas uniquement un espace VIP ou quoi que ce soit, c'est pas un espace de marché des droits, non, c'est un espace où des entreprises qui font commerce au Japon ou des entreprises japonaises qui sont installées en France étaient invitées pour recevoir des chefs d'entreprise qui veulent éventuellement faire business avec l'Extrême-Orient. Très intéressant, surtout que c'est une première, et en soi on n'a pas franchement eu le temps de voir un peu ce qui s'y passait et tout, mais l'initiative en est plus que louable parce que justement à partir de là on sort du milieu otaku et tout le reste.
C'était
vraiment très intéressant justement pour toutes les personnes qui veulent y aller professionnellement et se rendre compte que c'est pas parce que tu apprends japonais que tu es intéressant, ou c'est pas parce que tu vas faire une université japonaise que tu es intéressant. Attention. Donc justement de ce côté-là, pour ceux qui souhaitaient s'y intéresser, je vais dire dans un cadre en dehors uniquement du loisir, vidéoludique, de l'animation, de la bande dessinée et tout ça, c'était une initiative extrêmement intéressante et il faut en louer quand même les organisateurs du Toulouse Game Show.
Voilà, donc au niveau des entrées,
ils
ont pété un score, 30 000 visiteurs cette année, ce qui est presque le double que l'année dernière.
Moi j'ai posé la question à l'un des organisateurs samedi soir, je lui ai dit mais comment tu vas faire maintenant, comment tu veux faire là, parce que là il n'y a plus la place, c'est plus tenable, comment vous allez faire, sachant que le dimanche c'était beaucoup plus calme quand même encore. Et là ils ont dit on va rester à Diagora, il y a encore des possibilités.
Ce qu'il y a de rigolo, c'est que quand tu sors du festival, alors il faut savoir que le festival était soit la culture japonaise, manga, jeux vidéo, dessin, bande dessinée, dessin animé, ou plutôt heroic fantasy, donc ça veut dire soit J-pop et musique un peu japonaise, soit métalleux, un peu chevelu, gothique, zombie et tout ce qui est science-fiction. Et quand tu sors du festival, je ne sais pas ce qu'ils faisaient là, mais il y avait un camion de rappeurs. Je sais pas ce que c'était, mais
c'est tout simplement le j'ai oublié le nom de l'éditeur, mais c'est un éditeur de jeux de rythme et tout ça qui était là pour lancer son truc de Sing a Star mais manière hip hop.
Ouais, c'était vraiment
c'était complètement décalé et à vrai dire il y avait pas foule.
Il y avait pas foule parce qu'ils
étaient deux trois devant, et samedi après-midi au plus haut moment de la fréquentation, on est sorti pour tourner, il y avait rien. Les gens étaient absolument pas intéressés. Donc à mon avis, ils sont venus là soit squatter pour le TGS.
Oui.
Mais dans ce cas-là, ils auraient pas pu rentrer sur l'esplanade, donc je n'en sais trop rien. Je pense qu'ils étaient venus aussi à l'invitation du TGS pour voir. Mais c'est clair, c'était absolument pas leur univers.
Et puis c'est vrai aussi qu'ils n'étaient pas trop vernis non plus, parce que pour nos amis toulousains qui n'étaient pas là, ou nos amis en dehors de Toulouse qui nous écoutent, il faut savoir que la matinée de samedi, il a neigé à Toulouse et qu'il a, il a fait vachement frisquer pendant tout le week-end.
Il y avait des elfettes qui avaient du courage, il y en avait qui n'étaient même pas en bas. Qui était bras nus, voire même avec un petit maillot, un truc comme ça. On avait vraiment froid pour eux, hein. Ils acceptaient de faire des mouvements et tout devant nos caméras. Ah ben mais justement. Dedans, il faisait chaud. Oui. On n'était pas en blouson. On vous le garantit. Tout ça, on vous le promet prochainement, soit en lien sur le site suppléantweekend.fr, soit sur nos comptes, etc. Premier juré, on a deux équipes de montage qui se font la bourre. Et Thomas même hésite encore. Enfin, il a eu un petit problème technique pour faire le montage, hein.
Oui, ça c'est lié au fait que ce soit de la HD.
Ouais, on va parler de la technique. On va parler technique tout à l'heure. T'inquiète, avec la chronique de Summer Wars. Mais entre temps, il y avait aussi à Toulouse l'autre événement underground qui ramène une faune de fous furieux fans du Supplément Weekend.
Voilà, donc il s'agissait d'un festival qui a lieu à la Cinémathèque de Toulouse. Alors vous allez me dire, pourquoi des fous furieux, pourquoi une faune à la Cinémathèque? Eh bien, c'est parce que avait lieu le festival Extrême Cinéma la semaine dernière qui s'est clôturé donc samedi. Et donc toujours organisé par Professeur Thibault et Franck Lubé de l'équipe de la Cinémathèque.
On les salue,
ils ont été...
Ceux qui vont voir des daubes
Oula, de non, du cinéma saluer. Bis ou du cinéma barré, on va dire. Ouais. Du cinéma B. Allez. Comme barré, pas comme bis. Et donc ils ont été reçus deux fois dans nos amis de l'émission Cinécure d'FMR. Et justement,
je tiens à signaler pour ceux qui ne sont pas auditeurs de Radio FMR à Toulouse que ils sont à peu près au même créneau horaire, c'est-à-dire midi 13h, mais le mardi.
Voilà. Et donc j'ai eu la chance d'assister donc à la soirée d'ouverture du festival, donc
la soirée inaugurale avec les petits fours et tout, ambiance exactement. Très classe, je suppose.
Voilà, exactement, ambiance très classe pour assister à la projection d'un moyen métrage qui s'appelle The Call of Cthulhu. Pour les amateurs de H.P. Lovecraft, ça évoquera quelque chose. Donc il y avait un petit court-métrage juste avant, c'était un film complètement oublié et dont quelques minutes avaient été projetées, parce que c'est tout ce qui a été pu sauver de ce film. C'était une vague histoire d'amour, et justement la pellicule qui était extrêmement abîmée avec des taches, avec des grattages, vraiment la pellicule vraiment très 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 endommagée, et bien justement c'était une sorte de happening, puisque la salissure de la pellicule concourait à la narration de l'histoire. Il était question d'une personne qui avait oublié son passé, et qui avait une femme du passé qui était là, qui ressurgissait pour lui rappeler tout un pan de sa vie auquel il avait tourné le dos. Et justement, le fait de salissure de la pellicule participait à la narration, et tu te dis, ah tiens, mais c'est vachement bien fait en fait, finalement.
Alors que c'est pas du tout volontaire. Juste... Donc je rappelle quand même que c'est à la Cinémathèque de Toulouse et qu'ils ont un fond cinématographique qui est absolument énorme. Je crois que c'est le deuxième en Europe, juste derrière la Cinémathèque de Paris, qui a un travail de restauration énorme qui est fait entre autres par Franck Lubé, Professeur Thibault, qui sont des salariés là-bas, et toute l'équipe de la Cinémathèque de Toulouse. Et c'est vrai que des fois, entre autres Radio FMR y a participé sur la projection de films en noir et blanc qui ont été restaurés, je pense à Pointura et à d'autres films de ce genre qui sont accompagnés en ciné-concert.
Voilà, et donc là il s'agissait de la première partie, hein, il s'agissait de résidus d'un long métrage oublié, muet, des années 20, en noir et blanc, qui était suivi d'un moyen métrage, donc The Call of Cthulhu, en noir et blanc, en muet, sauf que ce film a été fait en 2005.
Poster, dirais-je.
Voilà, il a été fait à la manière des films des années expressionnistes allemands, et il s'agissait d'un ciné-concert. Donc ils étaient accompagnés par le groupe de rock, on va dire dur, Jenks, qui est un groupe bordelais, et ça le faisait mais grave,
C'était quoi, du greencore, du heavy metal, du...
C'était de la bonne percussion qui tâche, avec des grosses guitares bien saturées, sur un film, un moyen-métrage qui était vraiment à la Lovecraft, c'est-à-dire des imbrications de récit dans le récit, avec quelqu'un qui a fouillé le passé qu'il n'aurait pas dû, avec son descendant qui dit à un avocat, brûlez tous ces documents, il faut que personne ne vienne mettre son nez dans cette affaire innommable.
L'écrit est corrompu, qu'on ne le sache pas.
Oui, voilà, et donc il s'agissait de...
Toute la particularité de Lovecraft, qui est très 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 mal compris en général par la plupart des gens qui l'ont adapté au cinéma à Hollywood, je tiens à préciser, c'est que Lovecraft décrit quelque chose qui ne peut être décrit, donc du coup tout est dans le mystère, quoi. Hein.
Voilà,
c'est-à-dire on ne sait pas, on ne peut pas voir le danger.
Dès que, par définition, dès que tu commences à montrer, ben, ça perd du charme. Et donc là, il s'agissait de matelots qui ont réveillé à la King Kong. Hein, ils sont allés sur une île où il fallait pas qu'ils aillent, et ils ont réveillé donc la bête Cthulhu, une bête géante, une espèce de d'octopus géant. Et donc voilà, c'était une imbrication de récit dans le récit. C'était super chouette cette projection de ce moyen métrage. Il y avait, entre autres, comme un invité d'honneur cette année, il y avait le réalisateur américain Frank Henenlotter, un réalisateur de films, on va dire, olé olé, un peu barré. Pauline Palier, réalisatrice d'un documentaire qui s'appelle Dr. Gore, qui suit un médecin généraliste le jour et la semaine, et il occupe ses week-ends en faisant des films gore.
Ah oui, donc il y a vraiment le côté non mais c'est trop farien, c'est qu'un petit rhume, non mais le sang c'est pas comme ça.
Et alors ce qu'il y a de qui avait de frappant, c'est qu'elle nous a raconté en off que pendant l'interview, déjà puisque j'ai participé à l'interview en vidéo pour l'émission Cinécure, et donc elle nous expliquait que pour réaliser son documentaire, il lui fallait le contrepoint, puisqu'elle a interviewé justement ce fameux docteur Gore, et il lui fallait le contrepoint, c'est la mère du docteur. Sauf que sa mère,
voilà,
sauf
que c'est freudien.
Sauf que sa mère, elle est plutôt vieille éducation, et alors elle avait pas trop vu ce que faisait son fils dans le garage. Son fils est quand même médecin généraliste installé, hein. Voilà, c'est pas le petit gamin de 20 ans. Hein. Et donc, elle nous expliquait, la réalisatrice, que la mère, elle a failli avoir une crise cardiaque en voyant le film, parce qu'il faut savoir que les interventions de la mère, elles ont été enregistrées un 11 novembre. Pendant qu'elle se recueillait dans un cimetière des siens, et donc en fait elle a vu ensuite les extraits de films qu'elle n'avait jamais vus de son fils, où justement c'était des nains qui se faisaient crucifier avec des viscères et tout. Donc elle a un peu mal pris.
Oui, tu m'étonnes. Waouh.
Wow. Voilà, sinon nous avons rencontré une grande dame du cinéma italien de la grande époque, qui était l'égérie de Lucio Fulci, une actrice anglaise qui s'appelle Catriona McCall, et qui a entre autres tourné dans beaucoup de choses éclectiques, notamment Plus belle la vie récemment. Et donc elle nous expliquait comment c'était de tourner à cette époque, les monstres sacrés qu'elle a connus dans sa carrière. Et justement, en discutant avec, donc elle est mariée à un Français, et en discutant avec son mari, nous disait oui, justement, en fait, elle n'était pas très fière de cette frange de sa carrière, et donc justement, c'est quand elle est honorée dans des festivals que finalement elle accepte de revenir là-dessus. Et lui, il avait jamais vu les films dans lesquels elle avait tourné. Et alors je lui demande, mais alors du coup, ça vous a fait quel effet, vous avez vu votre femme d'un œil nouveau? Il me dit oui, et c'était pas pour me déplaire.
Voilà. Oui, parce qu'à l'époque elle avait belle forme et tout, on savait pourquoi elle était castée, comme on dit.
Voilà, donc c'est toujours la grande classe, cette immense actrice, c'est Catriona McCall. Voilà ce qu'on pouvait dire. La grande classe. Ce qu'on pouvait dire sur le festival Extreme Cinéma qui s'est fini samedi dernier par la fameuse nuit Porte d'un Wack à laquelle tu avais participé l'année d'avant. Et donc cette année, il y avait Captain Orgasmo, Massacre à la tronçonneuse.
Oh merde! Oh merde!
Et ainsi qu'un troisième film, plus un film.
Captain Orgasmo, oh non, Chantal serait verte.
Et.
Ah! Bon, on l'a vu, je sais pas combien de fois.
Voilà, et surtout qu'il y avait un quatrième film mystère qui n'a pas été dévoilé au public avant que celui-ci le voie. Il s'agissait d'un film porno très hard. Voilà.
Mais fin de soirée, c'est-à-dire juste avant les croissants, et en général.
Oui, voilà.
La dernière fois, j'y étais allé avec Solarus, pour lui faire coucou. Il y avait mon pyjama, la couverture et le traversin.
En pyjama, tu y
étais? Non, mais j'étais prêt à me changer dans la salle.
Dans la salle.
Ouais. Franck Lubé, il a vu ça, il a fait ah ouais quand même. Il fait
c'était quoi, pyjama?
Il faut sortir habillé.
Avec Astro Boy dessus, comment il était?
Ah. Oh.
D'accord, un classique. Oui.
Le vote est confidentiel.
Non, mais France. Après je fais semblant de te demander parce que je sais très bien comment sont tes pyjamas puisqu'on va en Angoulême ensemble.
Voilà, on va essayer d'avoir l'émission en direct cette année à Angoulême. pour la troisième année consécutive. Je ne garantis rien pour l'instant. C'est surtout des problèmes organisationnels, puisque je rappelle, on est bénévole. Mais en tout cas, ils nous attendent avec impatience au Conseil Général.
Oui.
Et ça fait plaisir. En tout cas, voilà. Donc, on leur fait un coucou à nos amis de la Charente. Et on va lancer justement peut-être ce qui pourrait être dans la sélection des bouquins que l'on va faire lire à ces pauvres collégiens. Avec Bakuman, le quatrième tome est sorti en traduction française chez Kana. C'est toujours Tsugumi Oba et Takeshi Obata qui le font à quatre mains. Je rappelle que ce sont les auteurs de Death Note. Et rappelons le contexte. Mashiro et Takagi sont deux collégiens devenus lycéens qui ont fait le pari insensé de faire carrière comme mangaka sans même passer par l'étape du fanzina ou du blog BD. A priori, ils ont tout. La patience, le courage, le culot, la connaissance du milieu professionnel, l'appartement à atelier et enfin, un talent indéniable. Ce qui est quand même l'essentiel. Mais à chaque fois, on se dit que ça y est, ils sont proches de la publication en épisode, qu'ils vont avoir leurs planches régulièrement publiées dans le Shonen Jump, la revue mythique des éditions Soeisha. Mais on est dans un manga publié dans le Shonen Jump, justement. Et comme dans n'importe quel manga publié dans cette vénérable institution créée dans les années 60, qui parle d'arts martiaux, Naruto, de sport, Rookies, de mécanique, Gunma, de jeux de cartes, Yu-Gi-Oh, et de tout autre chose, et ben il y a ce long cycle d'apprentissage par l'échec. Tu y étais presque, mais tu étais insuffisamment préparé, et c'est par ce loupé où ta motivation a été durement mise à l'épreuve que tu dois te relever en tirant un enseignement pour être plus fort. Après tout, c'est comme ça qu'on apprend à marcher. Et là, le problème, c'est qu'il y a eu un début de séparation entre Mashiro et Takagi, qu'ils devaient, pour la fin de l'été, travailler chacun sur un concept solide, et ben ils n'y sont pas arrivés. Sauf que c'est le tuteur de chez Soeisha qui découvre que les jeunes travaillent chacun de leur côté sur un concept très proche et que donc il suffit d'un petit rien à la fois pour les motiver et pour relancer leur amicale et très fructueuse collaboration. Et ça tombe bien car se profile le Golden Future Cup, un concours annuel. Toujours dans le Shonen Jump, décidément il y a beaucoup de concours dans cet hebdomadaire. Hein,
où... C'est les compétitions, ça remplace les compétitions de foot ou de baseball.
Ouais, tout à fait. Où vont se décider quelles seront les nouvelles séries entrantes dans le sommaire régulier. La Division 2 si vous préférez, hein, quitte à parler de foot. Et histoire de voir s'ils sont à niveau, leur éditeur va leur demander de tenir la cadence. Sortir leur participation au concours. Puis enfin créer un chapitre de 19 pages tous les 15 jours, presque comme un pro, pendant les 4 mois avant l'annonce du résultat. Je vous laisse faire le calcul. Ça fait 8 histoires complètes quand même à produire, en plus du bouquin, de l'histoire par lequel ils vont concourir. Par là, on aborde à la fois la thématique de l'idée, mais surtout d'un concept de série qui ne risque pas de s'épuiser au troisième épisode. Qui plus est, écrire un scénario d'intrigue policière est nettement plus difficile qu'une bête succession de bastons, fussent-ils agrémentés de mythologie grecque et d'une princesse qui se fait kidnapper à la première saison des soldes venus.
Je vois pas du tout de quoi tu parles.
Une année très dense qui va donc se dérouler en un seul tome. Là où ce manga est formidable, c'est qu'il donne un éclairage sans concession sur la rédaction même de la revue phare. On sent à la fois le poids de la hiérarchie et les compétitions entre les responsables éditoriaux. Aussi les règles stratégiques sur ce genre de concours, puisque je rappelle que ceux qui votent, ce sont les lecteurs qui sont supposés être les futurs clients de cette histoire. Et les éventuelles showstrap qui pourraient favoriser un concurrent plutôt qu'un autre. Mais surtout, comment sont jugés les projets éditoriaux avant de passer le baptême du feu, c'est-à-dire après publication. Après publication, c'est tout un rituel qui malheureusement n'existe plus dans la bande dessinée franco-belge. Dans cet univers impitoyable,
oui,
je sais plus comment ça.
Dallas.
Impitoyable, où les lycéens doivent aussi tenir leur niveau en classe que se surpasser dans la BD. Comment vont-ils tenir face à des concurrents tout aussi qualitatifs? Et Niizuma, l'insupportable génie qui n'a pas besoin de faire ce concours, comment va-t-il bouleverser la donne? Je oui, peux vous dire qu'il y a un putain de twist scénaristique absolument génial.
Oui, faut se rappeler que Honte Suprême, dans le précédent tome, notre cher héros dessinateur avait été contraint de devenir l'assistant de son rival. Son rival, rappelons-le, qui est plus jeune que lui.
Et voilà. Absolument gigantesque. Bakuman, le quatrième tome donc de la série scénarisée par Tsugumi Oba et dessiné par Takeshi Obata est sorti chez Kana. C'est le truc de lecture que vous ne pouvez pas manquer. Si vous aimez le manga, vous allez apprendre les ficelles du métier à la dure.
Et ça va vous donner des coups de pied au cul si vous voulez vous forcer à dessiner aussi. Vous allez voir
C'est garanti.
Voilà. Tout ce que vous pourrez faire, vous prétendez accro au boulot, accro au dessin, ben c'est rien par rapport à ce qu'ils vivent là-dedans dans la BD.
Ah ouais, mais c'est ce dit. Il faut que je passe en premier. Voilà. Ah! Pas mal pour une pro qui a été dessinée même pas 20 minutes avant l'antenne. Ah! Puisque je vais parler de Summer Wars, tome 1 sur 2. Et là, Thomas vient de tomber une mâchoire. Elle dit, mais je l'ai chroniqué.
Oui, le film.
Et voilà, bah voilà, s'il s'agit du manga, d'après Mamoru Hosoda et Yoshiyuki Sadamoto.
Donc, Sadamoto, c'est le character designer
voilà,
de Evangelion, hein.
Et oui, aussi, il faut le signaler. Et Hosoda, donc qui a été le character design sur le film, Ikura Sugimoto.
Hosoda, c'est le réalisateur.
Il a écrit une partie de l'histoire, d'après
oui,
ce que je sais.
Il a écrit une partie de l'histoire et c'est le réalisateur du film. Voilà.
Ikura Sugimoto a fait l'adaptation qui a traduite chez Kaze Manga. Je crois que c'est chez Kaze Vidéo qui était sorti justement le DVD de Summer Wars, film qui était passé malheureusement trop vite en salle en France et qui donc était sorti en DVD. On vous l'avait chroniqué, je ne sais plus à quelle occasion d'ailleurs. Je crois que c'était pour la DVD.
Non, c'était pour la sortie cinéma. C'était une sortie un peu en catimini, puisque ça ne bénéficiait pas d'une grande sortie en salle, mais c'était un chouette film qu'on avait dit, oui.
Voilà. Alors, on rappelle quand même que toute l'intrigue se déroule autour de Oz. Oz est une espèce de Facebook avec une interface en 3D qui remplaçait les fondamentaux d'Internet. C'est un hyper réseau social où tout le monde est présent, où toutes les entreprises sont présentes, où tous les services y sont disponibles et qui influent directement le monde réel, puisque Oz sert pour toute télécommunication. Hein ? Non, mais ne me regardez pas avec ces yeux-là quand j'utilise le terme télécommunication. C'est juste que si je vous dis que toutes les infrastructures SCADA y sont liées à Oz, vous allez me regarder avec un regard plus ébahi. Non, c'est tout. Bref, tout est lié à Oz, et pas uniquement en mettant à jour son statut ou en publiant ce qu'il a mangé sur son mur. Heureusement, toute la sécurité toute la sécurité de Oz repose sur une clé publique de 1056 bits, ce qui, dans les années 1990, était considéré comme une sécurité plus que militaire, carrément diplomatique. De nos jours, c'est le genre de clé qu'on casse en laissant un PC dernière génération mouliner 2 mois non-stop. Pour faire vite, comme ça, les choses sont dites, il s'agit de déterminer si un nombre à 318 chiffres est un nombre premier ou non. Et de déterminer si un nombre à 1000 chiffres est le produit de deux nombres de 318 chiffres qui sont les nombres premiers.
La chronique a fait mal la tête là.
Voilà. Bon, à l'époque de Redman, les militaires fantasmaient sur l'éventualité d'un autiste capable de casser une telle clé un stylo et un papier.
57 allumettes.
Un autiste ou un jeune espoir des Olympiades des mathématiques. Kenji, justement, aurait pu représenter le Japon à ces Olympiades des mathématiques. Seulement. Comment dire ? Il a trébuché sur une erreur de retenue en calculant le déficit de l'État grec, et ça, pas de bol. Et ensuite, il avait besoin d'argent, et donc, il a accepté un job d'été qui consiste à faire des opérations routinières de maintenance sur Oz avec son pote Sakuma. Je vais y arriver. Ça m'apprendra à essayer de corriger tout en récitant le texte et sans avoir retenu le nom. Tous les deux, Kenji et Sakuma, sont secrètement amoureux de Katsuki, fille mignonne, adorable, sportive, et qui souhaite justement proposer un job à l'un de ces deux garçons. Sakuma décline, et c'est finalement Kenji qui va accepter ce boulot étrange, accompagner Katsuki dans une réunion de famille. Une famille très ancienne, vénérable, et nombreuse, dont les racines remontent à un célèbre samouraï. Or justement, tous les représentants éparpillés de la maison convergent à la propriété familiale pour les 90 ans de l'arrière-grand-mère de Kenji. Non, je me suis trompé.
Bon, pas de Kenji, de Katsuki.
De Katsuki. Je savais que j'allais faire une erreur. Oui, mais imaginez le choc pour ce garçon dont les parents sont accaparés par leur travail. Partir à la campagne et se retrouver dans une immense réunion de famille. Mais le vrai grand choc, ça sera de découvrir pourquoi Katsuki l'a engagé. Pour jouer le rôle du futur mari de la dite jeune fille devant toute la famille. Ah, d'accord. Oui, mais voilà, le métier d'administrateur système n'est pas de tout repos. Et c'est justement au moment... Putain, j'arrive pas à taper mon mot de passe en même temps, excusez-moi. C'est justement au moment où Kenji n'est pas devant son clavier qu'arrive l'accident bête. Un pirate a réussi à casser la clé secrète de Oz. Un pirate audacieux qui commence par pirater les comptes, puis ensuite met la pagaille dans les centraux téléphoniques, les systèmes informatiques, les systèmes d'urgence, les services d'urgence, les gestions de réseaux électriques. Ouais, les systèmes SCADA, quoi. Mais quoi, mais arrêtez de me regarder comme ça. Enfin bon. Là où tout se complique, c'est que l'audacieux hacker a piraté l'identité virtuelle de Kenji. Ce qui veut dire que toutes les forces de police, tous les médias sont persuadés qu'il est un pirate de très grande envergure. Pauvre petit Kevin Mitnick. C'est pas exactement la légende que souhaitait Katsuki pour son futur mari fictif. Et je vous dis pas l'impact d'une telle nouvelle et d'un tel pedigree sur la belle famille. Oups. Alors, je n'ai pas vu le film et peut-être que je spoil des moments clés. Mais le dessinateur lui-même dit avoir pris des libertés par rapport à l'intrigue d'origine. Le graphisme est plutôt fin et on se surprend à se rendre compte qu'on oscille sans souci entre le monde réel et l'univers de Oz. On y retrouve le Japon qui mêle à la fois la tradition séculière et les très hautes technologies, puisque toute histoire joue à la fois sur la différence mais la non-contradiction entre le monde virtuel et l'univers réel. Ce qui sépare à la fois la vénérable famille de Katsuki avec l'organisation de Oz n'est que la forme. Tout le monde se réunit à un moment pour fêter un événement, et même très éparpillé, tout le monde est resté en contact. Or, c'est dans une fable... C'est en fait il y avait une fable qui courait dans les années 80 finalement on y revient. C'est ce fameux village connecté, où le cadre estival des montagnes oblige néanmoins à une certaine tenue, mais il n'est finalement pas si différent des univers de pure fantasy où chacun est libre de choisir son avatar. Alors d'après Mamoru Hosoda et Yoshiyuki Sadamoto, Ikura Sugimoto a donc adapté Summer Wars, le tome 1 sur 2 est sorti chez Kaze. Je ne sais pas ce qu'en pense Thomas de mon résumé.
Oui, effectivement, on peut voir ça comme avec l'éclairage, on va dire geek entre guillemets. Sinon, oui, il est fortement question d'informatique et de programmation. Enfin, moi, j'ai pas lu la BD, je n'ai vu que le film, le contraire de toi. Moi, par contre,
c'est juste abordé dans la BD. Hein, c'est moi qui ai complété.
Oui.
C'est non, juste pour le plaisir de geeker.
Oui, non, mais dans le film, on voit que c'est un génie des maths aussi, et cette capacité va lui servir aussi pour lutter contre Love Machine. Mais en fait, moi, ce qui m'a frappé dans le film, c'est le combat entre les anciennes valeurs japonaises, c'est-à-dire le positif et le négatif de la vision de la société japonaise faite par le réalisateur du film et de l'auteur. C'est que dans la maison japonaise, tu as tout le monde qui est soudé, tu as le vilain petit canard qui est parti, je crois, aux États-Unis, qui revient, et finalement tout le monde est autour de la matriarche. Sauf que cette vision de la société japonaise, ça correspond aussi au fait que les nana doivent faire la cuisine, doivent faire le ménage et tout, et puis les mecs sont ceux qui vont bosser. Alors c'est vrai que c'est une vision un peu archaïque, mais peut-être aussi extrêmement traditionnelle, et on voit dans le film justement l'affrontement entre cette vision traditionnaliste des réseaux familiaux, donc ça veut dire des réseaux où les gens se voient en vrai et ils discutent en vrai, ils mangent entre eux et tout, par rapport en opposition à Oz, qui est juste un réseau virtuel. Et donc c'est tout le temps une opposition dans le film entre réseau vrai et les réseaux virtuels, et donc c'est l'affrontement entre les deux conceptions du monde, avec le petit génie informatique qui incarne justement la maîtrise de la virtualité. Et justement je vais pas spoiler non plus.
J'ai voulu essayer d'éviter de parler des spécificités de la famille et tout le reste.
Voilà, donc en gros, c'est justement l'alliance entre la virtualité et l'aspect traditionnel du Japon qui va peut-être leur permettre de subsister, parce que c'est vraiment un danger à échelle planétaire, ce piratage du réseau Oz.
Voilà, et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur les réseaux virtuels et sur ce que l'on reproche à Facebook et comment y pallier, et ce qu'est Diaspora. Faudrait que je le bookmark, mais justement, il y a Solarus qui a écrit un excellent article là-dessus et qui a été annoté et cité d'ailleurs par l'un des grands maîtres de l'internet français. Et ça a été la surprise.
Ah bon?
Jean-Marc Planche, fondateur du premier FAI en France, voilà. Donc, s'il vous plaît, on le bookmarkera assez vite, donc vous le retrouverez dans les chroniques du supplément week-end. On va dans littéralement autre chose avec un grand classique de la bande dessinée franco-belge, classique moderne, puisqu'il s'agit de Black et Mortimer. Le 20e tome vient de sortir, La malédiction des 30 deniers, c'est en fait la fin de l'histoire en deux tomes. Toujours scénarisé par Jean Varenne, mais cette fois-ci dessiné par Antoine Aubin, et c'est sorti chez Black et Mortimer Édition. Alors les 30 deniers, ce sont ceux pour lesquels Judas a vendu Jésus. Je dis ça pour ceux qui n'ont pas eu une éducation chrétienne, catholique et tout le reste. Oui, parce que dans certaines religions chrétiennes aux États-Unis, Judas aurait vendu pour une Mastercard. Et la malédiction, c'est celle du livre. René Stern, dessinateur hyper talentueux d'Adler, décède pendant la production du premier album. Et sa femme, Chantal de Spiegeler, dessinatrice de Malida avant de se tourner vers les jeux vidéo et la mode, avait repris courageusement la suite de son mari pour terminer le bouquin. Et cela a donné un album très dissymétrique graphiquement et surtout trop différent du trait jacobien. Après tout, Black et Mortimer est une œuvre classique, canonique, qu'un éditeur souhaite étendre tout en gardant son classicisme et ses qualités. Et le lectorat de la série y est très exigeant. Et eh bien, ce sera donc la surprise du dessinateur engagé sur la deuxième partie. Antoine Aubin, quasiment inconnu dans le milieu de la bande dans le domaine de la bande dessinée, à part pour un album qu'il a sorti il y a un sacré bail, a surtout travaillé pour Disney. Et la surprise, on a un trait impeccable, réellement dans la lignée du maître. Sur les décors, le traitement des personnages, il faut saluer aussi l'ancrage d'Étienne Schrader, et surtout les couleurs de Laurence Croix qui peint des ciels aux couleurs, aux palettes de Jacobs. Regardez bien le fond de la couverture, les détails des pierres, les vêtements. On sent que le moindre détail a été très travaillé. Et comme pour se faire pardonner du mauvais sort arrivé au précédent album, comparer la vignette en haut à gauche des deux héros avec celui du tome précédent, on est vraiment... on sait qu'on arrive à... qu'on est de retour dans le qualitatif la malheureuse histoire qui est arrivée au précédent album. Or, toute histoire, c'est celle de Judas, qui ne s'est pas suicidé, comme le racontent ses ex-collègues rédacteurs d'évangiles, mais a été condamné à une longue vie pour chercher le pardon. C'est en Grèce qu'il mourra, et que la communauté qu'il a accueillie va cacher les 30 maudites pièces de monnaie. 19 siècles plus tard, un ancien nazi est fermement persuadé que ces 30 deniers sont une source de pouvoir, le mal ultime grâce auquel il va pouvoir restaurer le 4e Reich. Et c'est là justement que pas mal de fans ont tiqué sur le scénario de Jean Van Ham. Qu'est-ce que l'auteur de l'Argo Winch avait besoin d'un méchant qui soit un nazi? Après tout, dans Le Secret de l'Espadon, c'est en s'opposant à l'ordre mondial imposé par l'empereur Bassam Dandou que se rencontrent Francis Blake et Philip Mortimer, et où tenteront d'échapper au service spéciaux dirigés par le colonel Ulrich. Alors j'ai pu avec Didier Passamonique aller à la soirée de lancement de l'album. C'était chez un concessionnaire de vieilles voitures anglaises, et on sait que les méchants Ulrich en premier préfèrent les voitures américaine, hein, puisque c'est une Lincoln noire que tout le monde citait dans le bouquin, dans un cadre très luxueux. J'ai oublié de préciser que c'était à Paris, à côté de la place de l'Étoile, donc c'était vraiment, il y avait une Phantom 4, une Rolls-Royce Phantom 4, et il y avait des motos avec sidecar de l'époque. C'était on était là. Ouh. On pouvait se faire prendre en photo au volant quand même deux véhicules qui étaient vraiment d'exception. Donc c'est vous dire combien la soirée était très luxueuse, puisqu'il y avait aussi des clients du fameux concessionnaire. Donc voilà. Et c'est donc dans ce cadre luxueux, avec la petite coupe de champagne et tout ça, et avec nos impairs anglais, que Jean Van Ham nous a confié ce qui le motivait dans cet album. L'hésitation d'Ulrich. Que le sinistre individu soit recruté par une âme encore plus noire que lui. Et que du coup, il ait le moment d'hésitation, ce petit remords au moment de s'y engager. Alors c'est un traitement intéressant, sans aller à celui que Jacques Martin fait d'Axel Borg, la némésis de Guy Lefranc, qui a dû plusieurs fois faire front commun avec le journaliste. Pour une telle nouveauté dans la mythologie créée par Edgar Pierre Jacobs, il faudrait écrire une nouvelle aventure se déroulant chronologiquement après les albums du maître, donc après les trois formules du professeur Sato qui se déroulent fin années 70, début années 80. Mais là, il n'est pas sûr que les fans de la série y fassent le même accueil que pour les nouveaux albums situés dans les années 50. Car Black et Mortimer est une série classique empoussiérée, comme pourrait dire la jeunesse fan de manga. Mais ça cartonne en librairie. Jean Van Hamme au scénario, Antoine Aubin au dessin, Black et Mortimer, le tome 20 s'appelle La Malédiction des 30 Deniers, c'est la fin de ce cycle, donc essayé chez Black et Mortimer édition. Je sais que Thomas, lui, Black et Mortimer.
Non, pas trop ma cam, mais.
Va montrer ça à ton papa, tu vas voir.
Bah, mon papa, non, il n'est pas de bébé.
Midi 43, les esprits sont frappeurs et on est encore dans les chroniques BD dans le supplément week-end. Il y a Sushinette qui dit eh, ah, trésor, vous rendez l'antenne.
Allez, je fais rapidement sur l'encyclopédia.
Oui, j'ai été long.
Comment ?
J'ai été très loin.
Je fais l'encyclopédia Diabolica maintenant. C'est une encyclopédie un peu particulière puisqu'il s'agit d'une bande dessinée à petit format. Pas format manga, mais c'est format, je sais pas comment on pourrait appeler ça.
Ça se met un format 5, tout simplement.
Voilà, un format 5. Voilà. Donc, vous avez
c'est un format manga. Hein,
voilà, grosse pastille marquée approuvé par Jiro Taniguchi, l'encyclopédia des Diabolica. Alors, vous vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? On dirait des yokai, c'est quoi? C'est français, c'est japonais? Et bien, justement, l'auteur est franco-japonais, enfin, c'est plutôt un français qui vit au Japon. Et l'idée de cet album est partie d'une question que lui a posée Katsuhiro Otomo à l'occasion d'une soirée. C'est est-ce qu'il existe des yokai en France ? Et ben le gars il était bien embêté parce qu'il se dit ah c'est con parce que nous on n'a pas de yokai. Bon on a la bête du Gévaudan, on a quelques créatures propres à la culture française, mais on n'a pas de yokai. Et alors, justement, le pitch de ce bouquin, c'est que se passerait-il si des yokai, vous savez, ces créatures étranges du folklore japonais, existaient aussi en France ? Alors justement, on va faire le tour de l'Hexagone en compagnie du Docteur Lafayette, qui est un personnage fictif créé par Christophe Kurita, l'auteur, à la découverte de notre propre bestiaire dans une suite de petites histoires surprenantes et décalées. Alors il reprend justement le principe des yokai japonais, certains sont positifs, d'autres négatifs, certains font souffrir les humains, d'autres plutôt participent à les consoler ou alors de les bercer d'illusions pour qu'ils mènent une vie moins triste. Et ce qui frappe au début, c'est que tu dis ouais encore un Français qui rêve que si on était comme les Japonais parce que la culture traditionnelle japonaise est tellement bien, on n'a pas de yokai, nous c'est nul, on a une culture de merde, etc. Et en fait c'est pas du tout ça, puisque justement c'est une suite de petites histoires courtes, d'une histoire en images, qui est propre à certains petits contes de Noël, puisque pas spécialement de Noël, mais à des contes en fait, c'est des structures de courtes histoires. Et voilà, je passe l'album à Xavier pour qu'il se fasse une idée. Et justement, ça surfe un petit peu sur les traditions, sur la géographie de la France.
Alors, outre que j'aime beaucoup le bandeau yokaiologique de l'Université de Paris, mais c'est surtout, je pensais pas quand même que les Bretonnes traditionnelles avec leur coiffe étaient aussi dangereuses.
Oui, mais, mais les yokai peuvent prendre beaucoup d'apparences différentes. Alors justement, ça suit, je disais, le bestiaire, enfin pas le bestiaire, mais...
Est-ce qu'il y a Jean-Marie Le Pen ?
Non, la configuration géographique de la France. Alors par exemple, on a les bras des sables du Mont-Saint-Michel, on a les sirènes de feu des falaises bretonnes qui bernent les bateaux avec... Les feux de Bengale. On a aussi les bonhommes de suie des cheminées parisiennes. Voilà, donc on a quelques... Voilà, des petits bestiaires. On a un animal aussi, je crois, dans la forêt des Ardennes. Enfin d'animal, un yokai, et c'est vrai que les contes
c'est vraiment étonnant graphiquement parce qu'il y a un mélange de bande dessinée franco-belge à Gronet oui. et de Tezuka
avec des grosses serres noires ouais. et tu as un peu de texture dans les couleurs, et alors tu te dis au départ ouais bon ça s'adresse à un jeune public, et finalement quand tu vois les histoires c'est un peu moraliste, c'est-à-dire que c'est un peu c'est des contes, hein, donc à chaque fois c'est pour délivrer un message, c'est attention la nature peut parfois être dangereuse, ça c'est typiquement japonais, ou alors c'est un yokai va poursuivre un humain qui justement lui il avait un terreau fertile parce qu'il avait des comptes à régler avec un père avec un mec qu'il avait adopté comme son fils, mais en même temps qui privilégiait son fils biologique, donc il y a quand même un terreau quelque part. Il y a aussi un humain qui est dans le regret d'une vie passée parce qu'il a perdu sa femme et tout, alors le yokai justement va le berner se faisant passer pour sa femme mais aussi pour le consoler, donc voilà c'est à double tranchant à chaque fois, c'est souvent sur
proche du conte avant le nettoyage victorien où tout le monde est beau, tout le monde est gentil quoi.
Oui à peu près, oui c'est ça. Alors voilà, on a une morale pour chaque monstre, chaque yokai est différent, certains sont positifs, d'autres négatifs, à chaque fois c'est ponctué par un petit dessin gag à la fin en noir et blanc qui est assez rigolo, voilà. Bon, ça c'est un bon petit album fait de petites histoires courtes qui sera pas l'album de l'année, mais franchement qui se laisse lire de façon très agréable et voilà qui fait plaisir. Donc c'est peut-être un bon cadeau à offrir pour les fêtes avec des petits monstres, des petits yokai à la japonaise qui sont issus du folklore, un mélange de folklore japonais et de folklore français. Ça, il s'agit du tome 1 puisqu'il y a beaucoup de yokai à créer dans nos contrées, donc il y a des régions où il n'est pas allé. Alors évidemment il a fait deux yokai pour les parigots tête de veau, alors voilà bref, on attend du yokai du vieux porc cher avec la bouillabaisse, sinon on attend aussi le yokai foie gras cassoulet ou des trucs comme ça. Donc il s'agit du tome 1, on sait pas qu'il y aura sûrement des suites d'ailleurs. Voilà, donc Encyclopédia Diabolica, il s'agit du tome 1 par Christophe Kurita et c'est édité chez Ankama dans la collection Araignée.
Et on part vers les Amériques.
Nunca antes visto una dedicación al suelo que me vio nacer, sin él no existo. Piso firme en mi tierra, recibo el sol bendito, muy bendito. Y aunque me conozcan como el güerito, soy moreno por dentro. Los dejo perplejos con la energía y el fuego de mis ancestros. Uso fuego, ahora sí los tengo bien despiertos. Traiga las flores naranjas para nuestros muertos. Los resucito de puerto a puerto. Maniches me los quiebro de parte de mi pueblo. Y todo aquel que rechace su origen y esos mudos que solamente gritan el 15 fuera de aquí. Necesitaban algo así, los invito, participen en mi frenesí. Con este tequilazo no me contengo, le emblema en alto para que sepan de dónde vengo.
Nunca olvides dónde tú provengas.
Ese es mi lindo y querido, muy lindo y querido.
Nunca olvides dónde tú provengas.
Un canto para ti sin duda hará el destino.
Nunca olvides dónde tú provengas.
Ese es mi lindo y querido, muy lindo y querido.
Donde tú provengas.
Un canto para ti sin duda la define.
A mi jungla yo me sé mover aquí. Te muestro su color por si solo verso gris. Las nubes quizá lloren y se ahogan las noches. Y las miradas de la raza de bronce vivo te comen porque detrás de esos ojos se esconden más de 500 años de enojo. Pero esas voces ásperas no siempre son dispuestas. Inician cualquier celebración. El baile es un refugio en tiempos turbios. A pesar de que lo nieguen en los suburbios. Cada paso en el barrio sabe a canela y chipotle. De las cocinas de las abuelas se despegan de la superficie, pero regresan a la tierra natal. Almas inquietas festejan. Apenas empieza y has knockout. Y cuando sientes tus dientes el sabor es de cacao.
Nunca olvides donde tú provengas.
Ese es mi lindo y querido, muy lindo y querido.
Nunca olvides olvides donde tú provengas.
Un canto para ti sin dudar al divino.
Nunca olvides donde tú provengas.
Ese es mi lindo y querido, muy lindo y querido.
Donde tú provengas.
Un canto para ti sin dudar a definir.
Yo no pido permiso, alzo pantera, la nueva era para todos mis mestizos. Los inmortalizo, ese dolor que guardamos en mis versos lo canalizo. Este es un río bravo, nada lo domestica. Desemboca las fauces del jaguar mechina. Su espíritu no muere, se multiplica. Hay quienes lo condenan y crucifican.
Parece que se carece de unión.
Eso supone, pero con tanto caos hacemos que las cosas funcionen.
Y mira,
nos une esto, como el lenguaje que fue impuesto y que al final hicimos nuestro.
Les confieso,
mis mejores maestros me han enseñado.
Mira hacia el futuro, pero no olvides el pasado.
Y eso hago, no soy el conquistador ni el conquistado. Soy una nueva canción, dedicada a todas a mi gente del sol. Todas a mi gente del sol, es puro amor.
Nunca olvides donde tú provengas.
Ese es mi lindo y querido, muy lindo y querido.
Olvides donde tú provengas.
Un canto para ti sin dudar al divino.
Nunca olvides donde tú provengas.
Ese es mi lindo y querido, muy lindo y querido.
Olvides donde tú provengas.
Un canto para ti sin dudar al divino.
La chronique vous est présentée en double rafale stéréo Dolby 5.1 Explosion par Ultimatum.
Alors là c'est plutôt arme blanche, mais bon. Allez, on parle de Machete aujourd'hui. Un film de Robert Rodriguez avec, excusez du peu, le casting béton armé. Danny Trejo, Jessica Alba, Michel Rodriguez, Steven Seagal, Don Johnson, Robert De Niro, Lindsay Lohan et Cheech Marin. Alors... Le pitch.
Yeah.
Un politicien véreux, associé à un flic pourri et raciste, et un riche homme d'affaires nourrissant des pensées impures pour sa propre fille nymphomane et camée, ourdit une combine pour se faire réélire sénateur. Mais l'un des comploteurs, à la recherche d'un travailleur latino agrugé, jette son dévolu sur le mauvais Mexicain. Un ancien agent fédéral, adepte de la machette et à la rancune tenace. Il suffirait, au hasard, accompagné d'une révolutionnaire justicière de l'ombre, une fliquette sexy, un padré adepte des fusils à pompe et d'infirmières en mini-blouse, celui-ci se décide à sortir les poubelles pour que la petite ville du Texas ne s'embrase au hasard. Alors, le film Machete, à l'origine, c'était déjà un vieux projet que voulait tourner Robert Rodriguez avec son cousin Danny Trejo, puisqu'ils sont cousins les deux, et il voulait justement dire « Ah, ben c'est bête, il est toujours abonné au rôle de bad guy, des seconds couteaux, ce serait bien qu'il ait enfin un premier rôle avec, si possible, des scènes d'amour et tout. » Ben oui, parce qu'il pense à son cousin, il faut qu'il s'éclate aussi. Le cousin, en question, Danny Trejo, il a quand même 66 ans aujourd'hui, donc il était temps un peu qu'il fasse un premier rôle. Et franchement, les 70 ans, tu les vois pas. Hein. Ou alors, c'est le maquillage. Et alors, ensuite, quand il a fallu tourner des fausses bandes-annonces pour faire le double programme Grindhouse avec, entre Rodriguez et Tarantino, il a fallu justement faire tourner ces bandes-annonces. Et il s'est souvenu de ce projet qu'il avait avec Danny Trejo. Tiens, on va sortir de derrière les cartons le projet Machete et on va tourner une petite bande-annonce. Et c'est vrai que cette fausse bande-annonce, c'est la première à être adaptée en long métrage. Et bon, peut-être qu'il y en aura d'autres, on en attend avec impatience les femmes loup-garou des SS délirotes. Ça promet avec son ambiance vraiment gothique, noir et blanc, un peu à la, dans des catacombes SS où ils font des cris des loup-garous. Alors justement, Machete, on l'attendait, et finalement les réalisateurs de Desperado...
Tu es en train quand même d'inquiéter l'invité de l'émission suivante. Je crois que tu ferais mieux des fois de relire les chroniques.
Non, mais ça va, j'ai pas encore parlé des intestins qui servent à faire des descentes en rappel de trois étages. Alors,
chacun ses loisirs.
Voilà. Donc là, Machete, c'est tout le sel du cinéma de Robert Rodriguez, puisque c'est à la fois les forces et les faiblesses. Alors déjà, la force du film, c'est Dan Trejo. Alors à 66 ans, c'est clair que c'est pas un rôle oscarisable. On lui demande pas non plus
d'avoir... Toi, vous ma gueule. Tu veux que j'ai un Oscar avec ma gueule?
Attends, là, c'est déjà trop long, les textes. Alors déjà, on sait qu'il va y avoir des suites, puisqu'à la fin, il y a marqué prochainement Machete Kills et Machete Kills Again. Il va y avoir deux films. Alors c'est vrai qu'on lui demande pas grand chose. Alors on met des gros plans sur son visage qui a déjà bien vécu, avec toutes ses cicatrices, tous les tatouages de son corps, le corps qui est vachement conservé pour son âge. Il a des répliques en monophrase, il a la mine patibulaire. Alors on lui demande pas de déclamer du Shakespeare, mais c'est super suffisant, par exemple pour faire la grimace en disant je vais te tuer et en descendant 3 étages, arrive pas à tes intestins, ou le rictus, oh non, hermano, ils t'ont tué, vengeance, ou alors Machete, don't text, parce qu'il y a une nana, elle dit tu pourrais envoyer des textos avec, non, Machete, don't text. Ou alors la pseudo-face avenante quand il arrive, la fleur au fusil, dans la villa du grand méchant, il dit « Je suis le nouveau jardinier, mais j'ai une machette. » Voilà. Donc c'est du grand n'importe quoi. On retrouve toute la signature de Rodriguez. Hein. Alors on a un goût pour les seconds rôles de Latino qui jouent des personnages comme du cartoon. Hein. C'est pas du en dedans, hein. C'est vraiment du. Ils y vont à 150%. On a du fusil à pompe, des armes blanches à foison, des minettes caliente, du sanguinolent bien second degré. On a des répliques qui
fusent. Tu veux dire que c'est ce mec-là qui a filmé pour Disney ?
Qui a fait Spy Kids ?
Oui.
Oui, et les aventures de Shark Boy et Lava Girl en 3D.
Oui, ouais.
C'est lui, oui. Et il a fait Sin City aussi. Hein.
Oui, c'est vrai, pardon, d'accord.
Voilà. Alors, des répliques, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Alors, c'est Steven Seagal qui dit ça. Je suis, ma foi, très surpris par votre haute tolérance de l'échec.
Elle est pas mal de sa part. Hein.
Ou alors.
Il s'ignorait dès le direct du tout vidéo.
Direct to DVD. Sinon, on a aussi un mec qui va se faire buter par le frère de Machete, qui est un prêtre. Donc, il dit pardon, mon père, ayez pitié. Et l'autre, il lui dit Dieu va te pardonner, je t'envoie le voir. Ou sinon, Steven Seagal qui dit à la copine de Machete, toi t'es la copine de Machete, je connais bien son type de fille. Alors la nana elle lui dit, mais justement c'est quoi son type de fille? Et Steven Seagal lui répond, les cadavres. Donc voilà, c'est vraiment du grand, enfin pas vraiment du grand n'importe quoi dans ce que je vous dis là. C'est voilà, on a des gueules vraiment burinées, on a des répliques qui fusent. Quand il y a une valise pleine de billets qui est montrée, les billets ils sont tout dégueu, ils sont tout pliés dans tous les sens. C'est vraiment du bien crade mexicain. On a il y en a qui se fait un seppuku à un moment donné, mais le seppuku c'est à la machette, donc ça déchire plus que ça coupe. Donc le mec il est obligé de tourner pour s'achever lui-même, alors c'est vraiment du bien crade. Les pourris, alors Don Johnson, il incarne un flic, mais un pourri, une belle saloperie qui flingue des femmes enceintes, qui essaie de passer le Rio Grande, enfin c'est du n'importe quoi. On sent que les acteurs ils ont vraiment pris un sacré pied à incarner vraiment des belles pourritures. De Niro c'est le pompon, alors lui, De Niro il est vraiment... À 300 km de ce qu'il faisait pour Scorsese, avec le jeu vraiment à l'Actor Studio, maintenant c'est du n'importe quoi. Il pourrait tourner dans les Toons, que ça trancherait même pas. Les mines qu'il fait, c'est vraiment du rictus vraiment cartoon. Bon, il fait un peu pitié de Niro, faut dire que là-dedans, bon, ça aurait pas été De Niro, ça aurait pu être n'importe qui, franchement ça marchait aussi. Machete, ça, le positif et le négatif de Rodriguez, c'est-à-dire que moi j'attends que Robert Rodriguez, il fasse un film, un vrai film à un moment donné, mais vraiment sérieux. C'est-à-dire que le mec, si tu veux, il se situe il est en entre-deux, c'est-à-dire qu'il fait des films vraiment trop construits pour être vraiment du cinéma bis, et on va dire le cinéma bis fait avec 3 Francis Soul, 2 bouts de ficelle, en disant ouais, mais faut l'excuser, les scènes de baston, elles sont pas trop dantesques, mais il faut dire qu'avec l'argent qu'il a, ben non, là il a le budget, et il est pas non plus dans le registre, tiens, je vais faire un film sérieux, avec un vrai message, avec des vrais moments de cinéma. Et c'est là qu'il souffre un peu de la comparaison avec son frère de cinéma qui est Tarantino. C'est-à-dire que pour moi, le Grindhouse qu'ils ont fait tous les deux, avec d'un côté Boulevard de la Mort de Tarantino et de l'autre côté Planète Terreur de Rodriguez, on avait vraiment la différence. Avec Planète Terreur, c'était un petit jouet fait par un gamin, et le boulevard de la mort, c'était un vrai cinéaste qui s'emparait du cinéma bis pour en faire autre chose, pour en faire un vrai film personnel et un pur moment d'anthologie avec une énorme cascade. Il dit, Tarantino est arrivé, il a dit moi je fais un hommage au cinéma de cascadeurs, et donc à travers le personnage de Kurt Russell et à travers le personnage de la cascadeuse néo-zélandaise, eh ben je fais un film à la gloire des cascadeurs. Et à côté, qu'est-ce qu'a fait Rodriguez? Il a fait une espèce de parodie de film de zombies avec vraiment du truc salace de partout, du truc qui gicle. Bon voilà, c'est le sale gamin qui fait son petit truc dans son garage, c'est vraiment l'image qu'il a, et moi j'attends qu'il fasse un vrai film à un moment donné. Alors pour moi, son meilleur film pour l'instant, ça a été Une nuit en enfer, puisque toute la première partie avant que ça vire dans le film de vampire, bah, c'était super bien, c'était bien écrit.
C'est amené vraiment comme un polar.
Voilà, c'était voilà. Vraiment du polar pur jus.
C'était là où c'était très très amené, avec les petits tics tarantinesques. Ouais. Justement, quand Tarantino est en train de conduire, avec je panote sur l'arrière de la voiture, oui. Et on voit en coupe qu'il y a une donzelle dans le coffre. Plus après les répliques et tout, et puis tout d'un coup. Ça disjoncte, ça tourne à n'importe quoi. Ah, je vais être transformé en vampire dans exactement 23 voilà. Minutes.
Voilà. C'est... Alors après, c'est bon, il y a quelques bonnes idées dans son film. Il y a par exemple il y a l'église avec un système de vidéosurveillance. Donc les télés de vidéosurveillance, elles sont disposées en croix. Bon, c'est rigolo. À un moment donné, ils enlèvent la femme et la fille du grand méchant. Donc elles sont complètement à poil et sont dans la maison du Seigneur. Donc elles se lèvent et là, il y a Lindsay Lohan complètement à poil qui se dit tiens, je vais m'habiller. Elle se déguise en bonne sœur. Bon, c'est rigolo, ça fait plaisir. Après Rodriguez, il s'illustre quand même par. On sent qu'il a quand même le sens du cinéma. On sent qu'il fait des plans qui tiennent la route avec des vraies inventivités au niveau des cadrages et tout. Mais dans le plan d'après, il va torpiller tout ça avec un climax. Mais vraiment, c'est du n'importe quoi ce truc. Mais c'est du n'importe quoi. Tu prends même, enfin, c'est presque tu prends pas ton pied tellement il a 150 idées à la minute, mais il est torpille en 2 secondes à chaque fois. Donc j'attends justement voilà qu'il fasse un vrai film au moment donné avec des vrais moments de cinéma où il prend le temps et de composer des personnages. Après sinon si tu fais le listing de tout ce qui se passe dans ce film, tu dis mais c'est un truc où c'est de le rembarre. Tu prends ton plaisir, t'as voilà Lindsay Lohan qui revient qui est à poil pendant les 2/3 du film et puis qui revient déguisé en bonne sœur avec Michelle Rodriguez qui se fait buter à un moment donné, elle revient avec un œil en pirate. Bon voilà. Sinon le film, bon, voilà, on va pas bouder son plaisir. Machete, ça reste quand même du bon, du jubilatoire, du sympathique. Voilà, si vous aimez les films mexicains, alors c'est vrai qu'on avait déjà parlé de Robert Rodriguez qui avait la manie de mettre toujours un plat de sa sauce dans chacun de ses films.
Qui normalement est dans les bonus DVD, voilà. Où il donne une leçon particulière de cuisine. Et ça voilà. Vaut le coup d'ailleurs. Hein. Franchement, c'est voilà. Je dirais parfois que ses recettes de cuisine sont mieux faites, sont mieux filmées que ses films.
C'est vrai que ça donne envie de manger. Là, en l'occurrence, c'est les tacos. Il bouffe du tacos.
Oh,
voilà, Danny Trejo mange du tacos. Voilà. Donc, bon, voilà, avec toutes les réserves que j'ai dit, Machete reste quand même un peu
costaud.
Il y a Sushi qui a changé les réglages, détruit les tympans là.
ça pique un peu.
Voilà, donc Machete, ça reste un bon petit film bien décérébré de série bis. Voilà, donc Machete de Robert Rodriguez avec, je redis le casting pour vous faire saliver, Danny Trejo, Jessica Alba. Ah, dans une scène où elle est sous la douche, on l'a intégralement nue. C'est pas mal, ça fait plaisir. Michel Rodriguez. Très dénudé aussi. Steven Seagal, pas trop dénudé, heureusement. Don Johnson à lunettes de soleil, vraiment super. Qui joue d'ailleurs avec son compère de la série Nash Bridges, Cheech Marin, qui est aussi dans le film. Robert De Niro en politicien pourri. Et Lindsay Lohan, qui vraiment, on voit qu'il faisait très très chaud sur le tournage. Voilà, donc sachez que dès qu'il y a de la fille à poil dans le film, ils y vont. Ils le montrent en gros plan. C'est vraiment, c'est du cinéma décomplexé. Machete, toujours à l'affiche.
Toujours à l'affiche. Mieux le voir dans... VO. Allez, VO, ok. Est-ce qu'il vaut mieux le voir dans un petit cinéma d'arrêt essai, dans un multiplex ou en DVD?
En grand écran, ça devrait le faire. Après, de quel que soit le cinéma, je sais pas. Après, je pense que si vous le voyez dans des cinémas d'art et d'essai, déjà, il faut aller le voir dans des cinémas d'art et d'essai. C'est pas dit qu'il le passe. Et puis, c'est
vrai. Oh, tu sais, il passait Tarantino. Alors,
Ouais, c'est vrai.
Bon, donc, mais c'est pour le plaisir, la pellicule un petit peu grattée.
Ah oui, dans là, la pellicule grattée, c'est clair que voilà, il y a.
C'est gratté numériquement, d'accord.
Et, mais c'est vrai que c'est le début à la fin, sinon au milieu, il y a plus de grattage du tout. C'est un vrai film. Je pense que faire une soirée tacos avec des potes quand il sortira dans 6 mois en DVD avec des petits bonus, je pense que ça va le faire aussi.
Ouais, d'accord. Bon, je réserve ma soirée du 3 juin alors.
Ouais, surtout n'écoutez pas du sport. Il dit que des méchancetés.
Et c'est maintenant et c'est tout de suite, sachant qu'on a un peu débordé, et 13h06. Et ma foi, ben tu sais qu'il y en a qui nous écoutent encore en FM, qui nous en streaming et qui ont manqué le début de cette émission du Supplément Week-end.
Eh bien justement, nous n'avons pas eu du sport aujourd'hui, donc je n'ai pas eu le temps de noter tout ce qui s'était passé. Donc nous avons fait le débrief du Toulouse Game Show, le débrief du Festival Extrême Cinéma. Il a été question de bande dessinée sur des communautés virtuelles geeks. On a eu de la bande dessinée là, avec des énormes textes explicatifs bien franco-belges. On a eu de la bande dessinée sur la création de bande dessinée et des intestins mexicains.
Nom d'un calendrier de l'Avent. Vous avez manqué tout ça ? Heureusement, grâce à la diffusion différée, vous pouvez réécouter l'intégralité de cette émission et aussi retrouver les chroniques écrites, fouiller dans nos archives, jouer à des quiz stupides, laissez vos commentaires, posez vos questions, n'hésitez pas, il suffit d'aller sur le site web supplementweekend.fr. Vous écoutez FM 89.1 MHz, nous sommes en direct et en alternance avec Booster FM et on continue sur www.radio-fmr.net. Dans le prochain épisode, je ne sais pas encore. Ah bah si, le prix de la CBD. J'en ai pas parlé.
Ah ben ouais, voilà, CBD, et il sera peut-être question de flingage de Yakuza, peut-être, si vous êtes sage.
D'accord, ciao, bye bye.